Salut, c'est Daniel Mermet, c'est La Baisse et j'y suis avec Ignacio Ramonet. L'explosion du journalisme, des médias de masse à la masse de médias. Des médias de masse à la masse de médias, voilà. Ça, c'est le sous-titre du dernier bouquin d'Ignacio Ramonet, L'explosion du journalisme. Et tout est résumé dans cette phrase-là. Des médias de masse à la masse de médias. Mais il y a autre chose qui résume le bouquin. C'est une phrase en exergue qui est la suivante. L'inconvénient de cet âge d'or de la communication et de l'information, c'est qu'il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe. C'est très drôle et c'est très vrai pour la révolution que vous essayez d'écrire dans ce bouquin. Alors commençons par le commencement, des médias de masse à la masse de médias.
Oui. L'objectif de ce livre, c'est un peu de faire le point, disons, un état des lieux de ce qu'on appelle la crise de la presse écrite. Moi, je me suis posé la question suivante. Beaucoup de gens entendent parler de la crise des médias, en particulier de la crise de la presse écrite, depuis l'arrivée d'Internet, depuis le développement, disons, des réseaux sociaux. Si on voulait expliquer, en quelque sorte, quelle est la situation aujourd'hui à l'échelle internationale, disons, du choc qu'a provoqué Internet dans l'univers des médias, je dis ça a provoqué une sorte de changement d'écosystème, pour utiliser des termes, disons, écologiques. C'est un changement d'écosystème qui fait que aujourd'hui, toute une série de médias qui se trouvaient à l'aise dans le système précédent, avant Internet, sont en voie de disparition. Entre autres, de très grands nombres de journaux, de la presse écrite en particulier. Mais tous les médias sont concernés, radio, télévision, etc. Et par ailleurs, disons que l'écosystème nouveau permet l'émergence de médias tout à fait différents. Voilà ce que j'essayais de faire. Et l'une des grandes différences, c'est que avant, il y avait ce que j'appelle des médias soleil, c'est-à-dire de grands médias qui faisaient que, disons, la gravitation de l'ensemble de l'information tournée autour d'eux, des grands journaux, de grandes radios, de grandes chaînes de télévision. Aujourd'hui, il y a ce que j'appelle des médias poussières, c'est-à-dire que chaque individu, finalement, aujourd'hui, avec son ordinateur, peut créer son blog, peut créer son site, peut, grâce à Facebook, développer des informations, les diffuser des photos, des vidéos, commenter des informations déjà existantes, et de temps en temps se rassembler en un essaim. Et je dis, voilà, avant il y avait, disons, la stratégie du prédateur, aujourd'hui il y a la stratégie de l'essaim. Parce que ça fonctionne, voilà, par agglutinement de petits médias qui, soudain, peuvent former un écho absolument considérable.
Alors, effondrement de la presse écrite, c'est beaucoup à travers la presse écrite que vous racontez cette histoire, mais si on prend le plus grand journal au monde, qui est le New York Times, c'est peut-être pas le plus grand au monde, mais le plus prestigieux, en tout cas le New York Times, si les Japonais m'écoutent, ils doivent pas être contents du tout en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là ?»
Ou le quotidien du peuple chinois.
Oui, mais en tous les cas, le New York Times a des problèmes énorme, comme toute la presse dans le monde, mais fait 950 000 tirages papier, mais consulté et vu, il y a lu et vu. Et vu chaque jour par 44 millions d'internautes. C'est-à-dire que le New York Times est vu comme jamais.
Comme jamais. Voilà. Et par exemple, le compte Twitter du New York Times, donc 950 000 exemplaires de tirage papier, c'est 2 700 000 personnes qui tous les jours reçoivent ou consultent le site Twitter, reçoivent des informations, des tweets du site du New York Times. Donc, disons trois fois plus que, le nombre de personnes qui achètent le journal. Ce qui veut dire effectivement que l'information des grands médias traditionnels, disons sérieux de référence, a aujourd'hui plus d'audience que jamais. Seulement, c'est une audience qui ne paie pas, qui reçoit gratuitement cette information.
On va parler des problèmes économiques, mais restons sur les quantités. Il y a une croissance hallucinante des sites Facebook, 650 millions. Google, 970 millions. Yahoo, 603 millions. Wikipédia, 400 millions. Alors, ce que vous citez aussi, c'est le nombre de blogs. 250 millions de blogs dans le monde, avec 100 000 de plus chaque jour. Où va-t-on ?
C'est pour ça qu'on peut parler de masse de médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pratiquement chaque individu a la possibilité de créer un média planétaire qui vient s'ajouter à tout ce pullulement de sites d'information. Chacun peut donner son opinion, etc. Et on a l'impression qu'il y a un grand désordre. Mmh. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est mettre de l'ordre pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne.
Ils connaissent de l'intérieur la folle machine des médias. Nous leur avons donné carte blanche pour dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, pour dire ce qu'on ne vous dit pas. David Pujadas est une star de l'info. Chaque jour, son journal de France 2 à 20h réunit plus de 5 millions de téléspectateurs. Nous lui avons demandé un édito sur la crise des médias. Écoutez sa réponse, elle est inattendue.
3, 2, 1. On entend souvent que le journalisme serait en difficulté à cause des pressions politiques ou des pressions économiques. Comme journaliste, comme lecteur, comme téléspectateur, je crois que le problème n'est pas à côté de nous, mais qu'il est en nous. Je crois que le journalisme n'est soumis à personne, sauf à lui-même. Et pour moi, il souffre d'abord de conformisme et de mimétisme. La presse écrite regarde la télé écoute les radios lisent les journaux, et on a le sentiment d'entendre un bruit de fond médiatique avec non seulement les mêmes sujets au même moment, mais avec les mêmes mots, les mêmes enchaînements, et surtout, surtout, le même regard, la même sensibilité.
Bien sûr, à Monet, ce que vous dites, c'est que le journalisme qui vient d'en haut, ce journaliste prestigieux, qui donne son point de vue sur le monde et au monde comme ça, ce personnage-là est en voie de disparition à la faveur de l'amateur. C'est-à-dire que c'est un petit peu tout le monde est journaliste à la fois. On est lecteur et on devient auteur. On voit la prolifération, les blogs qu'on vient de, le nombre de blogs qu'on vient de citer. Chacun met son grain de sel et pas toujours sans talent.
Voilà, pas toujours sans talent. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques, d'ailleurs, au sens très large, au-delà même des médias de notre temps, c'est que tous ces instruments, à la fois d'acquisition de connaissances, disons les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et toutes ces techniques de communication développent des amateurs. Il y a de plus en plus d'amateurs qui, effectivement, font comme des professionnels et qui acquièrent un savoir-faire semblable à celui des professionnels. Et donc, de plus en plus, disons, les spécialistes parlent des pro-âmes. Des pro-âmes, c'est-à-dire des professionnels amateurs ou des amateurs professionnels. Et finalement, disons qu'il n'y a aucun argument définitif qui établisse que tel ou tel, disons, journaliste qui a pignon sur rue, dans n'importe quel pays, aura forcément davantage raison lorsqu'il donne son opinion sur un événement que tel amateur, ou entre guillemets, qui donnera lui son opinion. Cet amateur peut d'ailleurs être un expert en telle ou telle matière, un professeur de telle ou telle discipline, etc. Et donc quelqu'un qui a une connaissance très sérieuse, parfois, du sujet, et qui peut accrocher sur son site ou qui peut mettre dans un site d'information existant son point de vue, et son point de vue, finalement, l'emportera sur le point de vue de l'éditorialiste professionnel. Pourquoi ? Parce que, finalement, qu'est-ce qui compte dans la nouvelle organisation d'information ? Ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui consultent telle ou telle information. Si vous voulez, il y a des moteurs aujourd'hui de recherche qui vont classer rapidement l'information, notamment autour de Google, et qui vont dire « mais ça, c'est l'article le plus lu ». Et cet article le plus lu n'est pas forcément l'article du journaliste le plus en vue. C'est peut-être un article fait précisément par ces nouveaux amateurs qui sont eux-mêmes très savants.
Et dans ces nouveaux médias, vous dites, il y a, dans la fabrication classique d'un journal, vous avez dirigé très longtemps le monde diplomatique, vous savez très bien de quoi il retourne, entre le projet, quand on a fini la maquette et la fabrication, on sait très bien où on va, on sait très bien ce qu'on veut, c'est très clair. Tandis que là, vous dites c'est work in progress, c'est-à-dire on va peu à peu ajouter quelque chose, ben c'est un peu le système de Wikipédia, c'est-à-dire que chacun contribue à l'enrichissement, aux rectifications, etc. Donc ça c'est nouveau, ou bien on va accumuler, agglomérer, sur un thème, on voit ça sur certains sites, sur un thème, on va travailler sur tel thème, et puis on va ajouter des nouvelles informations, des nouvelles réflexions sur un thème.
C'est ce qui montre bien que c'est un changement d'air. On passe de l'ère industrielle. Voilà, l'ère industrielle, c'est l'ère de la pièce finie. On fabrique une pièce, cette pièce elle est dessinée par des ingénieurs, elle est fabriquée, disons, dans des ateliers, et cette pièce elle va ressembler au plan, elle va être parfaitement usinée, et elle sortira semblable au plan. Et ça, ça s'applique à tout. Je veux dire, avant on faisait un journal écrit, et bien ça rentrait dans des cadres très précis, des unités d'information, le journal radio, ou bien le journal télévisé, 30 minutes d'information, bien formatée, etc. Bon, ça, c'est terminé. Il reste encore, bien entendu, des éléments de l'ère précédente. Aujourd'hui, une information est une sorte de conversation. C'est-à-dire que, au départ, il y a bien sûr une analyse qui est faite, mais en fonction de l'évolution même des événements, cette information va être corrigé par son propre auteur, il va y avoir des éléments nouveaux qui viennent s'ajouter, des éléments extérieurs, observateurs vont pouvoir apporter de nouvelles corrections, voire y ajouter des photographies, des vidéos qui confirment ou infirment ce qui était dit. Donc effectivement, c'est un média total en quelque sorte.
Dossier explosif pour ces journalistes en colère. Internet, l'ère de l'info disponible partout, à tout moment et gratuitement. Sur le web, chacun crée son propre média et se croit journaliste. Alors question, à quoi servent encore les journalistes si on sait tout sur tout en temps réel? Faut-il définitivement les ranger au magasin des accessoires?
Bien sûr, à Monet, cette révolution ne va pas sans engendrer de lourds dégâts au niveau des emplois. Vous décrivez aux États-Unis la destruction d'emplois, enfin comme chez nous d'ailleurs aussi, hein. C'est assez calamiteux, c'est assez catastrophique.
Et oui, c'est toute une industrie qui s'effondre. Je donne un certain nombre de chiffres qui sont tous documentés, bien entendu, et qui montrent que des dizaines de milliers d'emplois aujourd'hui disparaissent dans le secteur, notamment de l'industrie de la presse écrite. La presse écrite au sens large, c'est-à-dire des journaux quotidiens, aussi des hebdomadaires, des mensuels, etc. Aux États-Unis, on estime qu'environ 120-125 publications de presse écrite ont disparu au cours des dernières années. Plus de 25 000 salariés ont disparu. Des journaux qui existaient depuis le milieu du 19e siècle ont fermé la porte. Des dizaines de journaux n'ont aujourd'hui finalement qu'une existence immatérielle sur Internet. Donc il y a un véritable désastre social. Il faut dire que, en parallèle, aux États-Unis, parce que, bien sûr, ce que nous appelons la révolution Internet, il faut se souvenir que ça a commencé aux États-Unis. Et donc, cette destruction qui est faite par ce choc de la météorite, en quelque sorte, Internet, s'est produite surtout aux États-Unis. Mais là aussi, c'est là qu'apparaissent les premiers journaux qui ont du succès et qui sont de pure création Internet. Un journal comme The Huffington Post, par exemple,
Ça,
et qui est aujourd'hui le très grand succès, la très grande référence, qui vient d'ailleurs d'être rachetée par AOL, eh bien, c'est un journal qui a créé de l'emploi, en quelque sorte. Ou bien Politico.com, c'est aussi ça a créé de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut voir que ça se détruit d'un côté, mais des nouvelles générations commencent aujourd'hui à apparaître dans ce que certains économistes appellent la destruction créatrice, c'est-à-dire quelque chose se détruit parce que la technologie avance et d'autres aspects apparaissent.
Mais ça crée quels emplois aussi? Quelle qualité d'emploi? Alors, vous parlez des OS du web.
Absolument.
Je connais un grand hebdomadaire parisien qui est situé place de la Bourse à Paris et où on a exactement ce que vous dites là, c'est-à-dire cette...
Les forçats de l'info, ce que j'appelle les forçats de l'info.
Alors quand on rentre dans cet hebdomadaire prestigieux qui est logé place de la Bourse, si on va au rez-de-chaussée, un petit peu en contrebas, presque dans une cave, on a une trentaine de jeunes journalistes au teint gris qui sont en train de bosser comme des poulets en batterie derrière leurs ordinateurs. Mais si on monte dans les étages, on a les vieux journalistes très prestigieux, les chefs de rubrique, les grands reporters, de confortables bureaux avec des magnifiques fauteuils de cuir. Et en parlant avec les jeunes journalistes qui sont en bas, je leur disais un jour, vous ne devez pas tellement vous amuser. Et il y a une jeune femme qui me disait, écoute, c'est un tel point qu'on avait, il y a eu très peu de temps, il y a eu sur la place de la Bourse, hein, à Paris donc, une manif qui passait. On a voulu aller voir, on a voulu faire un petit reportage là-dessus, et notre chef nous a dit rentrer immédiatement. On se trouve exactement ce que vous dites, hein, entre les OS du web qui sont en batterie. C'est le Nouvel Observateur dont je parle. Oui, tout le monde l'aura reconnu. Qui bosse sur Nouvel Obs en ligne. Et les vieux pontes héroïques de l'âge d'or qui attendent gentiment leur retraite en faisant de brillants papiers dans les étages. Et on a tout à fait cette histoire. Si on voulait faire un documentaire de votre bouquin, on le trouverait là, au Nouvel Obs.
Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces nouveaux journaux, tous ces nouveaux sites qui se développent, chaque journal d'ailleurs de presse écrite, a son équivalent, son miroir en quelque sorte sur Internet, et qui est fait par des journalistes précaires et que vous avez fort bien décrit. Alors, quand on discute avec ces jeunes-là, effectivement, qui ne voient jamais la lumière du jour, votre image des poulets en batterie est tout à fait...
Le Nouvel Obs va être ravi.
Non, mais il n'y a pas que le Nouvel Obs, c'est pratiquement tous les sites et dans tous les pays. Mais lorsqu'on discute avec eux, d'abord, ils vous disent deux choses. Ils vous disent, finalement, des pigistes exploités, il en a toujours existé. Et les pigistes, on en a connu dans la presse traditionnelle, et aussi avaient une situation précaire, un travail difficile, étaient mal payés, etc. Bon, peut-être pas cette constance et permanence devant l'ordinateur comme ces nouvelles générations. Et puis, il y a aussi une idée qu'ils ont, c'est que l'avenir leur appartient. C'est-à-dire que dans quelque temps, à condition qu'on trouve un modèle économique évidemment qui fonctionne, ce sont eux qui vont se retrouver dans ces célèbres bureaux avec des grands fauteuils en cuir, etc. Et les autres auront disparu.
Jean-Pierre Elkabbach a lui aussi dirigé des grandes maisons, chaînes de télévision et radio. Mais ce grand professionnel est aussi depuis plus de 40 ans l'un des journalistes les plus controversés de l'Hexagone. Elkabbach s'en moque, il n'est pas du genre à se taire.
4, 3, 2, 1, 0. Je me garderai bien de jouer les imprécateurs, les procureurs ou les donneurs de leçons. Il y en a déjà trop. Quand je m'interroge sur les raisons de la désaffection des lecteurs, de l'érosion actuelle des ventes et des audiences, de la crédibilité qui fluctue de la presse, bien j'ai envie de dire assez de considérer les affaires du monde comme une bataille entre le bien et le mal. Assez de nous copier, de nous répéter les uns les autres. Assez d'agir en meute. Assez de réclamer plus d'indépendance et d'aller courir après les subventions de l'État. Je crois que c'est la rigueur, la curiosité, la qualité qui assure l'indépendance de la presse. Assez de nous complaire dans la pipolisation, j'en peux plus, dans l'émotion, dans l'irrationnel et le voyeurisme. Et puis assez d'encenser un jour, de vilipender le lendemain et de porter au nu les mêmes, le surlendemain. Assez de faire croire aussi que le citoyen journaliste va se substituer bientôt au journaliste citoyen.
Alors, on continue avec Ignacio Ramonet, avec son dernier livre, L'explosion du journalisme, des médias de masse à la masse de médias. Alors, dans les raisons du déclin de la presse, notamment de la presse écrite, il y a cette révolution informatique, mais il y a aussi d'autres raisons. Et vous ouvrez un chapitre sur les raisons de ce déclin, qui sont une perte de crédibilité. Il y a une érosion de la crédibilité des médias en général et de la presse, papier peut-être un peu plus que les autres médias, mais à peine plus, mais vous en donnez les raisons. C'est-à-dire que vous avez un chapitre sur les céréales bidonneurs, par exemple.
Céréales bidonneurs.
Les céréales bidonneurs aux États-Unis, il y a quand même des histoires incroyables qui sont arrivés. En France également, il y a toute une série d'histoires qui sont de véritables bidonnages et qui peu à peu, quand même, engendrent une certaine érosion de la confiance, une baisse de confiance. Et puis, vous évoquez aussi, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu tout ça, le fait que nos médias, à nous ici, mais dans le monde en général, aux États-Unis notamment, mais partout, sont entre les mains de quelques oligarques, ce qui entraîne quand même une limitation de l'expression et du travail des uns et des autres.
Voilà, c'est un des paradoxes de cette crise des médias, c'est-à-dire que d'un côté on voit arriver des nouvelles technologies fascinantes qui permettent à tant de millions de personnes aujourd'hui de produire de l'information, de la recevoir. Bon, on est en train de voir comment ces réseaux sociaux ont bouleversé les sociétés du Proche-Orient, d'Afrique du Nord, là, sous les yeux, avec leur rôle. Et en même temps, on s'interroge sur est-ce que vraiment on va vers une démocratisation d'information? Est-ce que ça permet une démocratisation d'information? Et on se rend compte que, en parallèle à tout ça, il n'y a pas que la presse écrite est en crise, non seulement parce qu'il y a l'irruption des nouvelles technologies de l'information, mais elle est en crise aussi en raison d'un manquement à ses propres valeurs, disons, parce qu'il y a eu un non-respect des principes élémentaires du journalisme qui sont la vérification d'informations, le recoupement d'informations, la rigueur dans la vérification, etc. Et donc la crédibilité des médias a pris un coup très sévère. Aujourd'hui, moi j'avance le concept d'insécurité informationnelle, comme on parle d'insécurité alimentaire, pour dire qu'aujourd'hui quand on reçoit une information, il faut quand même être un peu méfiant, parce qu'on n'est pas sûr que dans un quart d'heure, dans trois jours, on ne va pas nous dire « non, finalement, c'est faux ». Je donne un exemple tiré d'une actualité récente. Il y a deux semaines, les informations du matin en France ont commencé en disant « Bernard Thibault compte se retirer de la CGT, il ne se représentera plus, etc. Il ne sera plus secrétaire général de la CGT ». Bien, c'était une grosse information, une énorme information. Tous les médias ont repris cette information. Cette information proliférait sur Internet, etc., jusqu'au début de l'après-midi, où Bernard Thibault a donné une conférence de presse disant que c'était absolument faux, que ceci était une rumeur qui avait été inventée, etc. C'était faux. Et on pourrait multiplier les informations comme ça. Donc il y a une insécurité informationnelle, un manque de crédibilité, des manipulations. Et dans le livre, il y a tout un chapitre sur des exemples que j'ai essayé de trouver, des exemples un peu pittoresques, de grandes manipulations. Dans les journaux les plus sérieux du monde, on parle du New York Times, etc. Bon. Et d'autre part, il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, bien sûr, nous disons la masse de médias, mais en même temps, les grands médias appartiennent soit au service public, aujourd'hui en France, d'une manière caricaturale, finalement pilotée par le chef de l'État lui-même, qui nomme désormais les directeurs des chaînes et les directeurs des stations,
de radio,
les présidents de radio ou de télévision, et d'autre part, comme vous l'avez dit, de quelques oligarques. Effectivement, aujourd'hui, l'ensemble, disons, de la presse nationale ou de la presse régionale appartient en France à une dizaine de groupes industriels, voire d'individus, de personnalités, qui, bien sûr, ne cherchent pas... Aujourd'hui, dans la presse écrite, on ne peut pas vouloir gagner beaucoup d'argent. On ne gagne pas beaucoup d'argent. Ce sont des instruments d'influence. Ce sont des outils d'influence. Et je cite Balzac, bien entendu, qui, depuis, disons, le milieu du XIXe siècle, mettait en garde contre ces personnes qui devenaient propriétaires de médias, essentiellement dans le but d'avoir de l'influence, soit une influence politique, soit une influence industrielle, comme on le voit aujourd'hui. Et donc on peut se demander si, dans notre démocratie, les médias servent la démocratie ou servent des intérêts privés.
Surtout, ce que les médias et pas mal de journalistes perdent de vue, c'est leur mission d'être un contre-pouvoir, tout simplement. De servir de contre-pouvoir. Être dans le contre-pouvoir, ça ne veut pas dire du tout être nécessairement dans l'opposition politique. Ça veut dire mettre le pouvoir et les pouvoirs économiques, financiers et médiatiques eux-mêmes, ce que vous êtes en train de faire, en cause. Interroger les pouvoirs sur leur légitimité, sur leurs intentions, ce que les pouvoirs n'ont pas tendance à faire. Le pouvoir, par définition, ne dit pas ce qu'il fait, ne fait pas ce qu'il dit. Donc c'est le boulot, tout simplement, tout bêtement, des journalistes que de s'arranger, de trouver les moyens, parfois en passant un peu par derrière, un peu par les coulisses, par en dessous, pour rapporter aux citoyens, des éléments contradictoires d'appréciation pour qu'ils puissent exercer ces droits, quoi, ces droits démocratiques. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la définition du contre-pouvoir. Or,
on le cherche, mais on le trouve pas.
Ça a été le but de certains, ça a été la vie de pas mal de journalistes.
Pujadas, Val, El Kabash, une sacrée brochette de professionnels, rassemblés ici pour dire à peu près la même chose. C'est en nous, journalistes, que réside la meilleure réponse à la crise des médias. À une condition cependant, accepter d'abord de balayer devant sa porte.
Est-ce que moi je me suis fait honte quelquefois?
Jean-Pierre El Kabash.
Oh, peut-être pour une erreur que j'ai à la fois commise et assumée, mais je voudrais bien qu'on me montre un seul journaliste qui a fait une certaine carrière dans la durée et l'exigence, qui, à un moment ou à un autre, ne soit pas trompé ou n'ait pas dit une bêtise.
Moi-même, je me prends souvent
David Pujadas.
En flagrant délit de cette faiblesse ou de cette paresse que je reproche souvent à notre métier.
J'ai dû dire une connerie il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. Je me souviens plus ce que c'est.
Philippe Val.
Mais je me suis trompé, mais méchamment.
Mais c'est sain. Heureusement qu'il y a de la honte, parce que quand il y a de la honte, il y a de la révolte.
Et c'est putain, c'était la honte.
On continue avec Ignacio Ramonet, l'explosion du journalisme. Dans ma jeunesse, qui est à peu près la même que la vôtre, on avait...
Il n'y a pas si longtemps, par contre.
Et oui, c'est hier. Il n'y avait pas beaucoup de titres, il n'y avait pas beaucoup de radio, il n'y avait pas beaucoup de télé, pas tellement d'éditions. Et on se disait, plus il y aura d'informations, plus il y aura d'éditions, et ben mieux ce sera, et plus grandes seront nos chances de notre émancipation collective. Aujourd'hui, on est devant trop d'infos.
Voilà.
Devant une masse d'infos, on ne sait plus comment se faire par rapport à cette masse.
Il y a une masse, c'est pour ça que je disais, il y en a tellement aujourd'hui, notamment de l'information, disons, immatérielle, hein, notamment dans le nombre de sites que l'on peut consulter sur Internet. Bon. Et donc, on a une masse d'informations à notre disposition considérable, au point même, je veux dire, qu'il faudrait aujourd'hui se poser la question inverse. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une sorte de désir de décroissance de l'information.
Moins d'infos, mieux d'infos.
Moins d'infos au pluriel, mieux d'infos au singulier. Voilà, c'est ça qu'il faudrait aujourd'hui. À la limite, bien sûr, ce n'est pas possible. Hein. Les médias se développent, chacun veut donner son point de vue, etc. Mais pour le citoyen, ça finit par créer une sorte d'asphyxie. Et je dis finalement, une forme nouvelle de censure s'établit. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations que je reçois que cette même information aujourd'hui m'empêche de prendre conscience qui a des informations que je ne reçois pas. C'est-à-dire, c'est parce que j'en reçois tellement que je suis toute la journée à consulter des informations à la rigueur, si je le souhaite, que je ne peux pas même me poser la question de savoir quelles sont celles qui manquent. J'ai l'impression qu'elles y sont toutes. Mais en réalité, bien entendu, ça, c'est la nouvelle forme de censure, ce que j'appelle la censure démocratique.
Alors, les médias sur le net, vous faites un panorama des innovations, des alternatives, des modèles économiques différents, dans ce qu'on appelle le cyberjournalisme, avec des systèmes avec but non lucratif, les systèmes entièrement payants. Comment s'y retrouver un peu dans tout ça?
Alors voilà, c'est très intéressant parce que les journaux disparaissent, et puis d'autre part, aujourd'hui, il y a une crise du modèle économique. C'est-à-dire que d'une part, il y a les journaux de presse écrite qui existent, payants, disons en papier payant, ceux-là ne sont plus rentables. Ils perdent de l'argent en permanence. Les sites d'information ne sont pas rentables non plus. Il n'y a pratiquement pas, à l'échelle internationale, de sites. Le Huffington Post est un des rarissimes sites qui soit rentable.
Rentable comment? Pas avec la pub?
Oui, avec la pub, bien entendu. Politico.com aussi, avec la pub, avec des dons, parfois également, des personnes qui le consultent, essentiellement avec la pub. Donc, par conséquent, il y a une crise du modèle économique. On ne sait pas, à l'heure où nous parlons, on ne sait pas quel est le modèle qu'il faudrait utiliser. Alors, cette crise économique des médias fait que dans la presse, dans les médias traditionnels déjà, par exemple ce que vous faites en permanence, c'est-à-dire les reportages, là-bas si j'y suis, est en voie de disparition. Le journalisme de reportage est en voie de disparition parce qu'il est trop cher. Et beaucoup de journaux, même les plus prestigieux, n'ont plus les moyens de payer ces expéditions, etc. Il y a une crise du journalisme de reportage. Deuxièmement, journalisme d'investigation, genre noble s'il en est, on ne peut plus le financer. Donc il y a une crise de cela. Or, par exemple, il y a un certain nombre de personnes ou d'institutions qui considèrent que s'il n'y a pas de journalisme d'investigation et s'il n'y a pas de journalisme de reportage, et notamment d'investigation, il n'y aura pas de contre-pouvoir. Et si une presse n'est pas un contre-pouvoir constructif, un contre-pouvoir positif, il n'y a pas de démocratie. Et donc, aux États-Unis, un certain nombre de mécènes ou un certain nombre de fondations, aujourd'hui, assument comme une nécessité civique que le journalisme d'information doit continuer. Et c'est pourquoi ces institutions ou ces mécènes financent ce qu'on appelle le journalisme à but non lucratif. C'est-à-dire que des sites se créent ou des journaux se reconvertissent, des journaux qui disparaissent dans la presse écrite, se reconvertissent en journal uniquement, disons, sur le web, en ligne. Mais c'est des journaux qui vont réaliser effectivement des investigations sérieuses qui supposent, bien entendu, beaucoup de temps investi, etc. Les journalistes gagnent un minimum, c'est une sorte de coopérative, mais ils peuvent fonctionner, ils embauchent. Il y a des centaines d'embauches qui sont faites aujourd'hui autour de ces nouveaux pôles d'information. Et ce journalisme a une perspective parce qu'il est lu.
Arlette Chabot est directrice de l'Info de France 2, la première chaîne publique française. Elle est à la tête d'un bataillon de 200 journalistes. C'est contre ce danger qu'elle ferraille aujourd'hui en pointant ses dérives.
Allez, on y va. Méfiez-vous des adeptes de la théorie du complot. La vérité, les vérités de l'information seraient sur la toile, tandis que les médias traditionnels, généralistes, soumis à des pressions économiques ou politiques, vous cacheraient la vérité. Alors c'est vrai, grâce à Internet, aucune information ne pourra plus jamais être enterrée ou dissimulée. Mais en revanche, je vous demande d'être prudent, parce qu'un jour vous apprendrez que vous avez été manipulé. Trompé.
S'il y a des archives à la radio dans 30 ans ou 50 ans, quand on écoutera cette émission, j'espère que les gens rigoleront, s'amuseront, ou au contraire, ils disent « Ah, mais ils avaient deviné !» Et on leur dira « Oui, mais c'est dans cette émission qu'on avait parlé de Wikileaks !» Parce que ça, c'est quand même une révolution extraordinaire, imprévisible, il y a quelques années, il y a quelques mois, avec cette incidence bien connue sur la révolution tunisienne, avec les dépêches révélées de l'ambassadeur américain qui décrivait dans ses dépêches la corruption hallucinante de la famille des Trabelsi. Ça n'a pas été la révolution, mais ça a été un élément qui a permis de rapprocher le pétard de l'allumette.
Absolument, c'est très bien dit.
Non mais alors, vous êtes assez enthousiaste pour Wikileaks,
oui, tout à fait, oui.
Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens du côté du pouvoir, et y compris des gens du pouvoir médiatique non plus, qui ont quand même traîné les pieds.
Bien sûr, bien sûr. Pourquoi, si vous voulez, je consacre un des chapitres du livre est consacré à Wikileaks pour expliquer d'abord, parce que je pars du principe que, curieusement, les médias français ont essayé d'escamoter à la fois ce qu'était Wikileaks et ce que ça signifiait, disons. L'existence de Wikileaks, d'abord, et de tous les sites maintenant du même type, ce qu'on appelle de l'information de base de données, Wikileaks est venu remplir un vide que les médias ne pratiquaient plus. C'est-à-dire à partir du moment où le journalisme dominant est un journalisme de complaisance, est un journalisme de connivence, est un journalisme, disons, d'une
endogame,
sorte...
Endogame, oui.
Oui, une espèce d'endogamie entre politique et médiatique. Où il y a une sorte de noblesse du quant à soi, n'est-ce pas? Bon, les dîners du siècle, etc. Bon, dont je parle. À partir de ce moment-là, rien de décisif et de vraiment dérangeant ne se dit. Si ce n'est en France une sorte de Wikileaks sur papier qu'est le canard enchaîné.
Oui, tout à fait.
Et qui fait tomber des gouvernements ou qui oblige à des remaniements. Donc on le voit bien. Et donc finalement, quand Wikileaks s'est créé, je rappelle des déclarations de Julian Assange, justement, disant pourquoi il crée Wikileaks. Parce qu'il dit, les médias à l'échelle internationale se sont totalement compromis, se sont totalement déconsidérés, notamment au moment de la guerre d'Irak, avec leur façon de participer à un immense mensonge, etc. Donc, cette volonté de ne pas révéler ce qu'est la réalité de la politique. Donc, d'abord, Wikileaks, ça vient justement remplir ce vide. C'est ça qui est important. Deuxièmement, Wikileaks, tout de même, a sorti un certain nombre d'affaires. Moi, je fais un petit peu l'inventaire de quelques affaires. Tous les documents sur la guerre d'Afghanistan, tous les documents sur la guerre d'Irak. Le célèbre document que je décris également sur comment, du haut d'un hélicoptère, une équipe de militaires en Irak abat un groupe de personnes, parmi lesquels se trouvent deux reporters de Reuters, de l'agence Reuters, qui, tout simplement parce que l'un porte une caméra, est vu du haut de l'hélicoptère. On croit que c'est un RPG-9, vous savez, 19. Voilà, et ça a permis de comprendre à quel point les révélations de Wikileaks étaient nécessaires, parce que tout ceci n'était pas connu, jusqu'aux révélations des câbles des ambassades. Dans l'ensemble, Wikileaks ne se prétend pas être un média. Ne disent pas qu'ils sont un média. Ils disent que les médias, finalement, n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils font, ces révélations. Et d'ailleurs, au début, c'était eux-mêmes qui diffusaient cette information, mais comme on a mis en cause leur façon de procéder, ils ont finalement accepté l'idée de transférer ces révélations à un pool, disons...
De grands journaux mondiaux.
De grands journaux mondiaux, qui sont considérés comme très sérieux, étant considérés comme des journaux de référence, et dont les journalistes ont pu constituer un groupe de travail de 120 journalistes qui ont pu analyser, contextualiser, etc., parfois peut-être censurer, enfin, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, qui ont permis de faire des révélations exceptionnelles, qui ont dans l'ensemble été occultées en France. Quelques sites les ont développés, Mediapart en particulier les a développés, Le Monde en a développé quelques-unes. Mais dans l'ensemble, comme vous dites, disons, les médias et les journalistes, disons, de l'establishment en France, ont considéré que ça ne révélait rien, que ça n'apportait rien.
On le savait déjà.
Que globalement, on savait déjà. Etc. Bon,
on l'a déjà dit.
C'est quand même extraordinaire. Voilà. Comme vous dites, à la rigueur, sans se rendre compte de ce que ça pouvait apporter. Parce qu'ils savaient, ces journalistes-là, sans doute, que Ben Ali était un dictateur. Mais quand le disait-il ? Quand le démontrait-il ? Est-ce que Wikileaks a fait, justement, en dévoilant les câbles de l'ancien ambassadeur des États-Unis, c'est qu'il y avait une description clinique. En Tunisie, tout le monde savait que c'était un dictateur, par définition. Et tout le monde savait qu'il y avait une sorte de kleptocratie au pouvoir. Mais ce que fait l'ambassadeur, c'est qu'il décrit les techniques dans ses câbles. Il décrit exactement comment ça marche, combien on paye, comment on paye. Quel est le pourcentage que prélève Madame Ben Ali, etc.
Or, quand les... Que payent les entreprises françaises
et donc,
la mafia.
Donc, quand les Tunisiens, connaissant ça, ont appris... Évidemment, il y a d'autres éléments, comme vous dites. C'est évident que ce n'est pas que Wikileaks. Mais Wikileaks est venu s'ajouter au bon moment, disons, ces révélations. Et le pouvoir a essayé d'étouffer le système. Mais c'est là où les réseaux sociaux entrent en jeu. Bref... Wikileaks, quand même, on peut dire qu'il a participé à l'un des moments...
Et puis c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie.
Il y a un des moments les plus historiques que l'on connaisse, qui est cette espèce de printemps démocratique des peuples arabes.
11 septembre 2001, des attentats organisés par la CIA, des crimes fomentés par les lobbies sionistes. Sur Internet, les pires rumeurs prolifèrent comme de mauvaises herbes. Les délires les plus absurdes s'affichent. Internet est une zone grise pour l'information. N'importe quel pseudoscoop s'y propage à toute vitesse avant même d'avoir été vérifié. Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain ?
On continue avec Ignacio Ramonet, l'explosion du journalisme. Alors, votre livre finit avec un exemple qui contredit tout ce que vous venez de dire. C'est l'exemple Die Zeit. Die Zeit, c'est un grand journal allemand, c'est un journal classique, c'est un journal avec des papiers de fond, avec des reportages, avec des enquêtes, et qui marche très bien. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de dire, ça s'effondre quand on ouvre Die Zeit. C'est-à-dire que Die Zeit fait 500 000 exemplaires chaque semaine.
Chaque semaine.
Et pourquoi ça ? Pourquoi ça marche ?
J'ai voulu terminer sur un exemple paradoxal pour montrer que, bon, il y a évidemment toute cette effervescence, tout ce bouleversement qui est provoqué par l'irruption d'Internet, mais que, dans une certaine mesure, la presse aussi est en crise parce qu'elle s'est reniée. Parce que elle est devenue erratique sur ses propres valeurs, parce que affolée par ce qui arrive, elle est prête à n'importe quoi. Mais quand un journal, je veux dire, a confiance dans ce qu'il fait, dans ses valeurs, quand un journal a fait une analyse de cette situation-là et a parié sur l'intelligence des lecteurs, s'est dit que finalement, pour un hebdomadaire, par exemple, collé à l'actualité, aujourd'hui, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus intelligent à faire, parce que les sites en ligne le font infiniment mieux. Mais ce qu'il fallait peut-être, c'était approfondir l'information autrement. Écrire, parce que c'est aussi, et je le rappelle, le journalisme de la presse écrite, c'est de l'écriture. Et donc, par conséquent, ça ne peut pas être écrit n'importe comment, là-bas, comme je te pousse. C'est aussi un art, l'écriture. Et donc, par conséquent, tout ceci, aujourd'hui, on le retrouve dans certains journaux. Je dirais, le monde diplomatique.
Bon, j'attendais, je me disais, vous parlez de Die Zeit, mais vous étiez en train de parler du monde diplomatique.
Ce que je dis de Die Zeit, j'aurais pu le dire du monde diplomatique. Je ne l'ai pas dit parce que, en tant que, disons, directeur pendant 18 ans du monde diplomatique, je ne le suis plus, mais je me suis dit qu'on m'aurait soupçonné de parti pris.
Alors, oui, c'est alors pour ça. Ce ne serait pas bien.
Ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas juste. Et donc, j'ai pris un autre exemple, mais quand on écoute le directeur de Die Zeit qui décrit un petit peu ce succès, c'est un des plus grands succès de la presse écrite à l'échelle internationale. Hein, un journal qui gagne beaucoup d'argent, qui voit ses bénéfices augmenter, qui voit le nombre de ses salariés, la qualité de ses salariés et de ses journalistes se renforcer. Eh bien, on se dit finalement que lorsqu'un journal reste fidèle à des valeurs et conçoit un journalisme pour le monde d'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de craindre que Internet va le déplacer ou le détruire. Et ce que je dis aussi, c'est que l'histoire des médias, c'est le récit d'un empilement. Il y a un chapitre qui s'appelle « Les avions ne remplacent pas les bateaux ». Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que Internet, ça ne va pas forcément remplacer la presse écrite ne va pas forcément disparaître, mais à une condition, c'est qu'elle soit de la presse écrite, disons, de qualité.
Il y a une chose que vous évoquez très rapidement au début du bouquin et qu'il ne faudrait pas perdre de vue en vous lisant, c'est le fossé numérique. C'est que là, on est en train de parler, on parle de l'Allemagne, on parle des États-Unis, on parle de nous, on parle des pays riches. Mais il y a ce fossé numérique.
Les deux tiers de l'humanité n'ont pas accès.
Les deux tiers de l'humanité n'ont pas accès à Internet. Donc ça fait quand même un fossé qui va en grandissant. Il y a un décalage là quand même considérable. Et ça, c'est aussi un aspect de la mondialisation et de la globalisation. Tout le long de votre bouquin, vous dites bien que cette révolution, elle suit la révolution conservatrice néolibérale. Que c'est un effet, que ça va avec. Et donc, cette révolution étant particulièrement inégalitaire, creusant les inégalités dans l'accès à l'information et donc à la réflexion.
Absolument. Elle vient redoubler d'autres inégalités. Les inégalités devant la fortune, bien sûr, les inégalités devant le travail, les inégalités devant l'ensemble de la justice sociale, etc. Et je mets à plusieurs reprises, je rappelle effectivement l'existence de ce fossé numérique, de cette brèche numérique, qui fait que, bien sûr, il y a aujourd'hui les deux tiers de l'humanité n'ont pas accès à Internet. Donc ce dont nous parlons, ça concerne un tiers de l'humanité, c'est énorme, bien entendu, c'est important, mais ça ne concerne pas tout le monde. Mais ce qu'on peut craindre dans le mouvement de la globalisation, c'est que pour l'ensemble des médias, ce qui est en train de se passer, surtout aux États-Unis, ne soit ce qui va se produire demain en Europe, après-demain en Asie, puis ensuite un petit peu partout, s'il n'y a pas davantage de résistance. Et la résistance, je la vois, c'est pourquoi on parlait à l'instant de Die Zeit comme exemple, je la vois dans un journalisme qui ne peut être que différent de celui qui domine aujourd'hui. À la fois différent sur le plan, disons, du financement. Le journalisme ne peut pas être exclusivement dépendant des caprices de quelques oligarques. C'est un journalisme qui doit être réalisé par des équipes qui croient en un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs doivent être universelles, bien entendu, hein, positives, qui doivent être par ailleurs un journalisme au service d'une conception du contre-pouvoir que vous définissiez tout à l'heure, dont je parle également, c'est-à-dire qui ne peut avoir comme objectif que de perfectionner la démocratie, dans le sens où, bien entendu, une démocratie sera d'autant plus parfaite que les écarts de tout type, économiques, sociaux, culturels, écologiques, etc., entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, sera le plus réduit possible.
Merci, Ignacio Ramonet.
Alors, question. La presse va-t-elle disparaître? À voir. Mais si elle ne veut pas mourir, ce qui est sûr, c'est qu'elle est condamnée à changer, et vite.
Alors ce document inénarrable est difficile à trouver sur le net aujourd'hui, il faut creuser un petit peu. Mais vous pouvez le consulter sur Arte à raison de 2,49€. Merci à tous, c'était un entretien avec Ignacio Ramonet. Je rappelle encore une fois le titre de son bouquin, Explosion du journalisme, des médias de masse à la masse de médias, qui paraît ce jeudi 3 mars aux éditions Galilée. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Voilà, c'est revenu. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas, si j'y suis. Où vous pouvez faire des commentaires sur ce que vous pouvez réécouter. La même chose sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Patrick Henry et Sophie Moreno. Coyen Guyenne et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de la page Si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Réclame.